Bon, sans plus attendre, on va aborder le sujet de cet après-midi pour lequel vous êtes venu, sans doute. Oh là là, c'est vrai. On va monter l'abonnement alors.
Je te laisse pousser après.
Oui, ok.
J'espère qu'elle pourra sortir après.
Le sujet de cet après-midi, donc, c'est une très grande question. Pourquoi le paradis et l'enfer? On a déjà parlé il y a quelques, oui, peut-être 1 ou 2 ans. Est-ce qu'il existe-t-il? Ou qu'est-ce qu'il y a après la mort? Voilà. Qu'y a-t-il après la mort? Et on a vu, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Donc, mais là, ça va plus loin. Pourquoi y aurait-il un endroit qu'on appellerait le paradis, un lieu de joie, de bonheur, de paix, de lumière? Encore, ça ne nous gêne pas qu'il y ait un paradis, mais pourquoi y a-t-il un endroit que la Bible appelle l'enfer. Et si vous êtes comme moi, vous avez parlé avec différentes personnes de ce sujet, et la plupart vous disent, l'enfer, vous savez, c'est pas après la mort, c'est maintenant. Hein. Ce qu'on vit là, c'est l'enfer. C'est beaucoup de gens le disent. Mais ce qui, la vie peut être difficile, mais ça n'a vraiment rien à voir avec l'enfer, selon ce que la Bible enseigne. Le livre de Dieu enseigne qu'il y a un endroit qui s'appelle l'enfer, où la mort éternelle, la seconde mort, aussi la Bible appelle la seconde mort, qui est un lieu de souffrance et de regret. Mais d'abord, quand les gens posent la question pourquoi y a-t-il un paradis et un enfer, c'est déjà bon signe. Ils ne sont pas en train de dire prouvez-moi qu'il y en a un ou l'autre. Ils disent pourquoi il y a ces deux endroits. Donc, c'est que l'on y croit déjà un peu. Et à moins qu'on vienne nous instruire comme quoi le ciel et l'enfer n'existent pas, si on nous bourre le crâne, que ça n'existe pas, mais si on nous laisse tranquille, la plupart des gens, si on leur parle d'un endroit de souffrance ou d'un endroit de joie après la mort, la plupart des gens disent oui, ça me paraît normal, ça me paraît croyable, ça ne me choque pas qu'il y ait ces deux endroits-là. La plupart des gens, sans vouloir l'avouer, y croient quelque part. Et pourquoi? C'est parce que ils disent, mais il y a trop d'injustice sur la terre. Si ça s'arrête là, il manque quelque chose. Il faudrait que les comptes soient réglés, si ce n'est pas maintenant, au moins après. Mais on peut pas, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. C'est pas normal. C'est pas possible. Alors d'abord, qu'est-ce que le ciel? La Bible, quand elle parle du ciel, elle parle de 3 endroits différents. Et c'est pour ça que le ciel, c'est lequel ciel? Le premier ciel, dans Genèse 1, Dieu dit, le quatrième jour, il a dit qu'il y ait des oiseaux qui volent dans l'étendue du ciel. Quand on voit où volent les oiseaux, c'est dans l'atmosphère, là où il y a de l'air. Il y a au-dessus de la terre quelques kilomètres où on a de l'air et on peut respirer. Et donc les oiseaux peuvent voler là. Ça, c'est le ciel, l'atmosphère, bien sûr, c'est le premier ciel. Ensuite, la Bible parle de notre ciel, ce qu'on appelle l'espace communément. Bon, ça, c'est beaucoup plus grand, c'est énorme, c'est tout ce qui est la Voie lactée, les galaxies, l'espace, c'est énorme. Et un roi, 8, verset 27, Salomon, quand il prie sa prière à Dieu pour le temple, il dit, voici les cieux, des cieux ne peuvent te contenir. Donc, vous avez le premier ciel et puis vous avez le ciel du premier ciel, c'est l'espace. Et il dit, l'univers entier ne pourrait pas te contenir. Alors, l'espace est très grand. Les astronomes aujourd'hui arrivent à nous donner une petite idée de ce à quoi ressemble l'espace tel que nous le connaissons aujourd'hui. Parce que l'espace ne cesse pas de s'agrandir. Et si vous avez l'espace, on va dire, d'un certain point de vue, si on pouvait sortir de l'espace et regarder l'espace, et ce serait une énorme ellipse, comme un grand ovale, et en bas, un peu à gauche, c'est la Voie lactée. Ça, c'est notre galaxie. Et un peu vers, un peu à, pas au centre, mais un peu à côté, il y a le Soleil, et puis il y a quelques petites planètes qui tournent autour, dont la Terre. Nous sommes dans un tout petit coin de l'espace. Et la Bible dit, même l'espace ne peut pas contenir Dieu. Ça nous amène au troisième ciel, et la Bible parle du troisième ciel, qui est la demeure de Dieu. Alors, ce n'est pas un endroit où l'on va aller, il va y avoir une grande maison avec une belle porte et puis une clôture, hein. Mais c'est la demeure de Dieu. Et je voudrais juste vous lire quelques versets ici, où l'apôtre Paul, il raconte une... Alors lui-même ne sait pas si c'était une vision ou s'il a fait, comme on dit, un voyage astral, c'est-à-dire si Dieu l'a emmené, son esprit, dans le troisième ciel. Mais voilà ce qu'il donne comme compte-rendu. Il dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. » Et là, il dit, « Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Alors, il dit, « Cet homme fut enlevé dans le paradis, donc le troisième ciel, c'est le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Donc, il dit, mais il parle de lui-même, parce que il ne veut pas dire « j'ai une vision », il dit « je connais quelqu'un qui a une vision ». Mais il dit « j'ai entendu des paroles ineffables, merveilleuses, qui ne m'est pas permis de transmettre. » Ce que Dieu a dû lui dire dans ce troisième ciel, Dieu ne voulait pas qu'il dise aux autres. Mais il a eu cette vision qui était pour lui réelle, dont il donne le compte-rendu. Donc, troisième ciel, c'est la présence même de Dieu. Alors, dans ce troisième ciel, c'est la partie vraiment importante. Les gens qui disent « j'aimerais aller au ciel », c'est pas avec les oiseaux, c'est pas dans l'espace, c'est dans la présence de Dieu. La Bible dit en Ézéchiel 28 que les anges ont été créés dans la présence de Dieu, dans ce troisième ciel. Dieu a créé les anges, on va dire un à un, ils ne se sont pas procréés, mais Dieu les a créés par classe. Et individuellement, il en a créé un très grand nombre, des myriades de myriades, 10 000 fois 10 000 fois, voilà. Il y en a autant qu'il faut, et Dieu les a créés pour plusieurs raisons. Et ils vivent, ils ont été créés dans la présence de Dieu, et ils vivent dans la présence de Dieu. En Ésaïe chapitre 6, on trouve mention dans certaines catégories d'anges. Et là, on a une vision par Ésaïe, cette fois-ci, de la présence de Dieu. Et là, donc, Ésaïe voit un trône, Dieu assis sur le trône, et comme en Orient, les longues robes, c'était pour les monarques, pour les gens très importants, parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller faire des courses et courir servir les autres, ils peuvent rester sur le trône avec une grande robe, ça montrait leur majesté et leur puissance, et les robes de l'Éternel sur son trône remplissaient le temple, et puis, des séraphins, c'est des anges, qui voltaient autour du trône, autour du Seigneur, et criaient les uns aux autres, « Saint, 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 et l'Éternel, le Dieu des armées, la terre est pleine de sa gloire. » Donc on sait qu'une certaine catégorie d'anges sont dans la présence de Dieu et crient sa sainteté continuellement. Ensuite, en Job chapitre 1, on a une autre vision de ce ciel, cet endroit de Dieu, parce que la Bible raconte que Dieu est dans sa demeure, dans ce troisième ciel, et que des anges viennent parler avec lui, peut-être des comptes rendus, ou ils reçoivent des ordres, mais à un moment donné, Satan, un des anges, qui s'est éloigné de Dieu, qui n'a pas voulu de Dieu, qui a voulu remplacer Dieu en fait. Cet ange, Lucifer, vient avec les autres anges, et Dieu et Lucifer ont une conversation au sujet de Job. Vous connaissez un peu. Job était un très bon serviteur de Dieu. Dieu en parle à Satan. Et Satan dit, oui, mais tu lui rends la vie facile, tu le bénis, c'est pour ça qu'il te sert. Mais si tu lui permets des malheurs, il va te maudire en face. Ils ont des conversations. Donc même Satan pouvait entrer dans la présence de Dieu. En Apocalypse chapitre 4, on a une vision du trône de Dieu. Ce qui est clair dans la Bible, c'est le ciel, la demeure de Dieu est quand même très clairement expliqué. On pourrait en faire un tableau avec les explications qui nous sont données. Par exemple, dans Apocalypse 4, vous avez, il y a donc un trône et il y a un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, c'est vert. Et la couleur verte domine dans la salle du trône de Dieu. De ce trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône, il y a 7 lampes ardentes. Donc, imaginez des lampes qui brillent devant le Seigneur. Après, devant le trône, il y a un mer de verre semblable à du cristal. Puis, autour de ce trône, il y a d'autres trônes. Et puis, il y a 4 êtres vivants qui ont des formes différentes, qui sont devant le trône et qui louent Dieu jour et nuit. Donc, on a tout un tableau, le trône de Dieu, un endroit absolument magnifique, où Dieu est à l'honneur, c'est son trône, c'est sa demeure, c'est là qu'il habite. Bon, la Bible dit que Dieu est partout, parce que Dieu est invisible. J'ai lu récemment l'histoire d'une petite fille qui disait, pourquoi on ne peut pas voir Dieu? Moi, j'aimerais bien voir Dieu. Si je pouvais voir Dieu, j'y croirais. Et le monsieur qui connaissait un peu sa Bible a dit, mais tu n'as jamais vu ta mère. Mais la mère était assise à côté d'elle. La fille avait 10 ans. Comment, papa, je n'ai jamais vu ma mère? Elle est juste à côté de moi. Il dit, tu vois son corps. Mais tu n'as jamais vu ses émotions. Tu n'as jamais vu ses pensées. Tu n'as jamais vu ses frayeurs, tu n'as pas jamais vu ses opinions. Il y a toute une partie de nous que personne ne peut jamais voir. C'est notre âme. C'est la partie immatérielle de notre être. Nous sommes dans un corps, mais même quand le corps il meurt et on le met en terre, ça c'est pas nous. Notre personnalité ne peut pas être touchée. Et c'est pourtant ce qui fait que nous sommes nous. Et chacun de nous est différent, n'est-ce pas? On a chacun une âme, des personnalités, des expériences, des opinions, des goûts, etc. Dieu, il est immatériel. Mais il est aussi réel, plus réel que vous et moi. Il a une personnalité, il a des goûts, il a des pensées, il a une morale, il a... Voilà. Mais il n'a pas besoin d'être matériel. Ce qui fait qu'il peut remplir l'espace entier parce qu'il est invisible et il est partout présent, de la même manière. Et en même temps, il a un endroit où il demeure, le ciel. Alors, pourquoi le ciel? Pourquoi cet endroit? Eh bien, parce que tout être a une demeure. Chaque personne habite quelque part. On peut voyager tant qu'on veut, mais on met la clé dans la porte, on dit, ça c'est chez moi. Et le Seigneur a une demeure. La Bible dit, ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Dieu dit, j'habite dans les lieux élevés. Donc, il donne son adresse. Hein. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Il habite dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Quand quelqu'un s'humilie devant Dieu, Dieu est tout de suite à côté de cette personne, présent, pour lui faire du bien. Même s'il habite dans la sainteté. Et puis, ce qui est beau, c'est que Dieu veut partager son habitation avec nous. Sa demeure, il veut la partager avec nous. On a vu en Apocalypse 4, je viens de vous lire un peu, ces anges qui sont autour du trône de Dieu. Si Dieu voulait être seul, il dirait aux anges, vous vous en allez, laissez-moi seul. C'est jamais le cas. Il y a toujours des anges autour de Dieu qui partagent sa gloire, qui vivent avec lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et alors, Philippe a dit, mais comment allons-nous connaître le chemin pour aller là-bas? Jésus dit, je suis moi-même le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, que par moi. Donc, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit en quelque sorte, je prépare une demeure dans la demeure de mon Père, dont on parle, le trône. Je prépare une demeure pour moi et pour vous. Et quand je l'ai préparée, je viendrai vous chercher. Vous viendrez vivre avec moi dans ma demeure, qui est dans la demeure de mon Père. Donc, on voit par là que Dieu veut partager sa maison avec nous. Est-ce que vous avez jamais eu des gens que vous avez invités chez vous, puis au bout d'un petit moment, vous auriez bien voulu qu'ils partent? Et puis ils s'incrustent et restent. Puis ça devient de plus en plus lourd. On ne les avait pas invités pour aussi longtemps qu'ils se restent. Et c'est très difficile de leur dire, bon, écoutez, peut-être il faudrait rentrer chez vous. Ça ne se fait pas, très bien, mais oui, parfois. Mais Dieu, comme il va nous rendre semblables à lui, il n'aura pas de problème avec nous. Parce que d'abord, il va nous arranger et il va nous amener dans sa présence. Il veut partager sa demeure avec nous. Donc, le ciel, ce n'est pas quelque chose de théorique. Déjà, dans la Bible, le ciel existe, la demeure de Dieu existe. Jésus y est, il prépare une place. Et si nous sommes en Christ, nous partagerons cette gloire avec lui. Et on pourrait poser la question, mais pourquoi veut-il partager sa demeure avec nous? Quelle est la raison pour laquelle il voudrait qu'on soit au ciel? Une bonne question. En Éphésiens chapitre 1, il donne un peu la réponse. Il dit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. La raison pour laquelle il veut qu'on soit au ciel, c'est pour qu'on soit saints, purs, sans aucune souillure et parfaits. Il veut nous rendre parfaits. Et il veut que parfait, on vienne devant lui. Mais une autre raison, il veut qu'on vienne pour célébrer la gloire de sa grâce. C'est-à-dire que nous, on est des pécheurs, on a péché des centaines, des milliers de fois. Et un Dieu juste, un Dieu saint, devrait nous repousser. Et devrait nous dire, vous ne pouvez pas partager ma gloire, je suis saint. Vous êtes sale, je ne peux pas vous prendre avec moi. Seulement, il a choisi, parce qu'il est amour, de nous pardonner, de nous laver de nos péchés et de nous accepter dans sa maison. Alors, quand on sera dans la maison de Dieu et quand on sera donc rendu parfait et glorieux comme lui, les anges, ils vont être là aussi. Les anges qui, dont eux, n'ont jamais péché. Et les anges, ils savent qui nous sommes, ils savent d'où nous venons. Ils étaient là quand le Seigneur a créé les hommes et tout. Ils ont vu Adam pécher, ils nous ont vu pécher. Et quand ils nous verront là-haut, rendus parfaits et glorieux, ils pourraient peut-être dire, mais comment ça se fait que vous êtes là? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre? On pourra répondre, mais nous sommes là, parce que Dieu nous a fait grâce, il nous a lavé de nos péchés, le Fils de Dieu est mort pour nos péchés, et c'est à cause de son amour et de sa grâce que nous sommes ici dans sa maison. Et Dieu va montrer par nous qu'il est plein de grâce, qu'il est plein de miséricorde et qu'il est plein d'amour. On sera la preuve vivante de tout ça. Et c'est aussi une raison pour laquelle il veut nous avoir au ciel, parce que ça va le glorifier. Et nous aussi, on sera heureux de rendre ce témoignage. Si les anges nous posent la question, on sera ravis de leur dire, on est là parce que Christ nous a fait grâce et parce que son sang a coulé pour nous. Voilà pourquoi il y a le ciel. Le ciel existe parce que Dieu veut partager sa gloire et sa joie avec nous. Donc, lui, il a une demeure, c'est normal, mais il veut l'ouvrir à nous. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de placer toute sa confiance en Jésus-Christ. La Bible est très claire. C'est la foi. C'est croire ce que Dieu dit. Croire que Jésus est vraiment Dieu devenu homme. Le croire de tout son cœur. placer sa confiance dans le fait que Jésus a payé pour nos péchés et placer sa confiance en lui et le lui dire, Seigneur, tu es mort pour moi, je le crois et j'accepte ton pardon, j'accepte ton offre de ciel et de paradis et de vivre avec toi, je l'accepte. Et si je vais au ciel, ce sera grâce à toi, pas grâce à moi. Grâce à ton amour, pas grâce à ma religion. Pas grâce à mes bonnes œuvres, grâce à ce que toi tu as fait pour moi. Quand on croit ça et quand on dit ça à Dieu de tout son cœur, Dieu nous pardonne et nous prépare cette place au ciel. C'est aussi simple que ça. Ça nous amène à la deuxième partie, donc pourquoi le ciel? Maintenant, pourquoi l'enfer? Là, c'est plus triste. Pourquoi l'enfer? D'abord, qu'est-ce que l'enfer? C'est un endroit où on est banni de la présence de Dieu. Dieu n'est pas en enfer. Et donc, celui qui ne veut pas de Dieu, il y a un seul endroit où il peut aller pour échapper à la présence de Dieu, c'est bien l'enfer. Dans 2 Thessaloniciens, on a une explication que Dieu donne lui-même, chapitre 1, verset 9. Il parle de gens, il dit, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc des gens qui disent, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de Jésus-Christ, je ne veux pas de l'évangile, je ne veux pas l'amour de Dieu, je ne veux pas du paradis, je ne veux pas passer mon temps avec Dieu. Il y a des gens comme ça. Ces gens-là, la Bible dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Une ruine loin de la présence de Dieu. Le meilleur exemple d'une ruine, c'est une casse auto. Vous n'avez jamais été dans une casse auto pour chercher une pièce pas trop chère? C'est vraiment pas joyeux. On voit tout un tas de voitures qui autrefois étaient jolies, qui marchaient bien, qui ont coûté cher. Et c'est des tas de ferrailles sans aucune valeur, rouillées, empilées généralement les unes sur les autres. Et travaillent là-dedans, il y a de la graisse partout, il y a de l'huile. Et quand les mécanos doivent aller chercher une pièce, ils montent derrière sur la rouille, puis démonter une pièce, ils vous vendent ça, 3 francs 6 sous. C'est décourageant. Pourquoi c'est décourageant une casse? Parce que ces voitures ne servent plus à ce pourquoi elles ont été créées. Elles sont ruinées. Et comme elles sont toutes ensemble, c'est un endroit triste. Et l'enfer sera un endroit triste parce que les gens qui y sont ruinés. C'est-à-dire, ils n'ont pas été créés pour aller en enfer. Comme une voiture n'a pas été créée pour aller à la casse auto. Une voiture a été créée pour aller sur la route et transporter du monde. Et les gens ont été créés pour la gloire de Dieu. Mais comme ils ne veulent pas de Dieu, la seule autre possibilité, c'est d'être dans un endroit qui est loin de Dieu. Mais c'est un endroit de ruine. Ce sont des épaves. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour eux, mais c'est ce qu'ils ont choisi. En endroit de ruine, en endroit où Dieu n'est pas. Déjà, c'est assez triste. Mais il y a plus de détails. Là-bas, la Bible, quand on parle de l'enfer, parle aussi de la géhenne. Jésus a parlé beaucoup de la géhenne. Alors, tout le monde pouvait comprendre la géhenne parce que en dehors de Jérusalem, il y avait une petite vallée qui s'appelait la vallée de Hinnom. Et dans cette vallée, c'était la décharge municipale. Ceux qui ont mon âge, oui, on est plusieurs à avoir mon âge et plus, vous vous souvenez, avant le recyclage et tout ça, qu'on avait la décharge municipale. Et quand on passait là, ça ne sentait pas bon. Et les camions déversaient les poubelles carrément par terre. Enfin, je veux dire, parfois on creusait un trou et on versait là-dedans. Et très souvent, on brûlait. Et ça brûlait tout le temps. On amenait les détritus et ça brûlait, les papiers, les vieux plastiques et machin. Puis il y avait des boîtes en fer qui étaient dans le feu et qui rouillaient. Ça tombait là-dedans et puis on couvrait ça de terre et puis voilà. Mais ça brûlait tout le temps et c'était polluant, ça sentait mauvais, c'était très désagréable d'être dans la décharge municipale. Eh bien, à Jérusalem, ils avaient cette décharge municipale. Il y avait un feu qui ne s'éteignait jamais. Il y avait toujours des détritus qui venaient pour y être brûlés. Jésus a comparé l'enfer à la décharge municipale de Jérusalem, la vallée de Hinnom. Parce que qu'est-ce qu'il y a de la poubelle, des ruines qu'on jette, des épaves qu'on jette et qu'on brûle. Et le feu ne s'éteignait jamais. Quelle image triste de l'enfer. La Bible parle d'un lieu de tourment. Et en Luc chapitre 16, que j'ai déjà lu ici plusieurs fois, mais ça vaut la peine de revenir et de revoir un petit peu la configuration de cet endroit. Alors cet endroit, d'après tout ce qu'on peut comprendre, se situe quelque part dans les régions inférieures de la Terre. Les géologues, tous ceux qui étudient l'espace et puis la Terre, nous disent que la croûte terrestre sur laquelle nous sommes est moins épaisse, ou plutôt moins épaisse, que la peau d'une pomme. C'est-à-dire que si la Terre était une pomme, la peau, ce n'est pas très épais hein, sur une pomme. La croûte de la Terre est moins épaisse sur la Terre que la peau est sur une pomme. Ce qui fait qu'à l'intérieur de la Terre, c'est de la roche liquide chauffée à des milliers de degrés. C'est ce qui constitue notre Terre. Et c'est un miracle que la Terre tient comme elle fait. Elle tient par la grâce de Dieu. Mais, quelque part, dans les régions inférieures de la terre, la Bible parle toujours de cette manière-là, il y a un lieu de tourment. Et la Bible appelle ça le séjour des morts. Il y avait donc deux hommes dont vous vous souvenez, un pauvre mendiant et puis un homme riche. Le pauvre mendiant a été amené dans un endroit de réconfort et le riche a été amené dans un endroit de tourment. Et la Bible dit que dans l'endroit où il était tourmenté, il expérimentait, il ressentait le feu. Et ça, c'était une souffrance continuelle, comme s'il était brûlé, mais sans jamais se consumer. Et il demande à Abraham, qui est dans l'autre partie de cet endroit, d'envoyer Lazare pour tremper le bout de son doigt dans un peu d'eau, pour lui rafraîchir la langue, parce qu'il était cruellement tourmenté dans la flamme. Jésus, là, ne raconte pas une parabole, mais raconte le récit de ce qui est arrivé à ces deux hommes après la mort. Si Jésus a raison, et il n'y a pas de raison de penser qu'il dit faux, si Jésus a raison, l'enfer est un endroit donc où il y a du feu, sensation de feu et une brûlure, une énorme température et une grande souffrance. Et cette souffrance est continuelle, continuelle. L'enfer. La Bible parle d'un endroit de feu et de soufre, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Si vous avez jamais vu quelqu'un qui a d'une grande souffrance, quelqu'un qui, par exemple, a une grande douleur suite à un médicament ou plutôt une intervention chirurgicale, maintenant on calme la douleur, mais il y a des gens qui ont des douleurs atroces. Et tellement qu'ils grincent des dents, et on entend leurs dents, c'est terrible, et on sent la souffrance de la personne. Dieu emploie cette expression-là pour expliquer à quel point les gens qui sont en enfer vont être dans la souffrance. C'est un lieu de tourment. Les gens sont conscients. Parfois, les gens, vous savez, ils veulent faire un peu d'humour quand il s'agit de l'enfer. Alors ils disent, ben oui, mais ça sera bien avec le diable. Et puis on sera autour d'un feu, on se racontera des blagues, hein, on va se... Hein, ça ne va pas être comme ça. Ce n'est pas un feu de camp où on fait les chamallows et puis des saucisses au Strasbourg au bout des bâtonnets. Ce n'est pas ça l'enfer. En enfer, c'est l'endroit où les gens, chacun sera dans la souffrance. Chacun sera conscient. Ils n'y dormiront pas. Ils seront tout le temps réveillés dans la souffrance et dans la douleur. C'est un endroit de souvenir. Les gens en enfer vont se souvenir de leur vie passée. Ils vont se souvenir des opportunités qu'ils avaient de recevoir l'évangile qu'ils ont rejeté. Ils vont s'en souvenir. Et ils vont avoir des désirs. Des gens qui aimaient l'alcool et qui aspiraient à avoir de l'alcool vont toujours avoir le désir d'avoir l'alcool sans jamais pouvoir le faire. Des gens qui fumaient des cigarettes, la nicotine est dans leur système, ils veulent fumer, ils ne pourront pas. Des gens qui étaient dans la sexualité débridée, qui étaient des obsédés de ça, ils vont vouloir vivre leur passion, ils ne pourront pas. Donc les gens auront toutes les tentations et tout le désir de continuer dans leur péché, mais ils ne pourront pas parce qu'ils sont dans le tourment, dans la souffrance. La Bible parle aussi, c'est un lieu d'obscurité. Alors on pourrait penser que s'il y avait des flammes oranges comme dans un feu, on voit du monde, on regarde, tiens, là-bas, il y a un... Non, c'est, la Bible parle d'un endroit d'obscurité. Alors ça nous est difficile de comprendre comment les gens peuvent avoir une sensation de brûler et ne pas avoir de flammes et avoir une totale obscurité. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile à comprendre. Mais écoutez ce que dit Jude, l'apôtre, le frère de Jésus. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Donc dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Il dit, ce sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Il y a une possibilité que suggère ce passage. Dans l'espace, il y a un petit peu d'air, il y a un peu de matière. Les astronomes nous le disent, ils ne savent pas d'où vient cette matière, elle est là. Mais imaginez que l'on prenne quelqu'un et qu'on le jette dans l'espace. Ce serait comme il était dans un trou sans fond, totalement noir, et il brûle à cause de la friction. Ce serait une horrible souffrance comme un feu, mais sans flamme. Et le Seigneur explique un peu comme si c'était un astre errant. Imaginez quelqu'un, imaginez, et je ne vous ai même pas imaginé, mais un cosmonaute qui monte dans l'espace et qui sort de la station spatiale et qui se perd et qu'on ne peut pas récupérer, errer dans l'espace. Bon, il mourrait vite à cause de manque d'oxygène, mais imaginez qu'il puisse vivre dans l'espace sans jamais plus pouvoir rencontrer personne, sans jamais serrer la main de personne, être perdu dans le ténèbre pour l'éternité, à tomber dans un trou sans fond. C'est le sort le plus horrible qu'on pourrait imaginer, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça presque pire que d'être dans une flamme avec d'autres gens où on peut se voir. Non, c'est l'obscurité des ténèbres réservées pour toujours. Dieu n'y est pas. Alors, maintenant, pourquoi l'enfer? Si c'est tellement horrible que la Bible le dit... Et d'ailleurs, Jésus en a parlé plus que quiconque. Jésus, il a parlé 70 fois de l'enfer en 3 ans. 70 fois. S'il en a parlé, c'est pour que les gens l'évitent. Pourquoi l'enfer? D'abord, Christ a créé l'enfer. On est obligé de le croire. La Bible dit, en lui... En Christ ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Mais l'enfer n'a pas été créé à l'origine pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les temps éternels, et nous ne savons pas exactement à quel moment ça a eu lieu, Dieu, ayant créé ses anges, peut-être tous les anges, peut-être une grande partie des anges, il en a créé un qui était particulièrement magnifique. Même la Bible dit quand cet ange a été créé, il y avait de la musique qui jouait pour accompagner sa création. C'était un ange que Dieu a établi pour être près de lui, gardien de sa présence. C'était un ange merveilleux, un chérubin protecteur auprès du trône de Dieu. Vous voyez, c'est pas n'importe quel ange. Et il a appelé le fils de l'aurore, Lucifer. C'était le nom que Dieu lui a donné. Et Lucifer a décidé, parce qu'il pouvait prendre cette décision, il a décidé, je veux être semblable à Dieu. Ce qu'il voulait, c'est l'adoration. Parce que le seul qu'on adorait au ciel, c'était Dieu. Tous les anges adoraient Dieu. Il a vu ça. Et on ne sait pas comment. Mais dans son cœur, il s'est élevé de l'orgueil et il a dit, je veux être semblable au Très-Haut. Je vais devenir comme lui. Je veux qu'on m'adore. C'était l'orgueil. Et c'était prétendre qu'il pouvait être l'égal de Dieu. C'est complètement insensé. Dieu est son créateur. Lui n'est qu'une créature. Et il veut prendre la place du créateur. Mais c'est d'une folie absolue, mue par l'orgueil. Et ce péché-là, immédiatement, Dieu a dû éloigner Satan de lui-même. Soit avant ce moment-là, soit à ce moment-là, mais de toute façon, de toute éternité, Dieu savait ce qui se passerait. Et donc Dieu a dû décider, dans les conseils éternels, d'établir un endroit où il ne serait pas. Et les gens qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas se soumettre à lui, iront dans cet endroit précisément parce que Dieu ne s'y trouve pas. Pourquoi aussi? Parce que être dans la présence de Dieu, si on est un pécheur, être dans la présence de Dieu avec nos péchés, il y ferait plus chaud que l'enfer. Un jour, un conférencier a prêché un message. Alors, des centaines de gens sont venus parce qu'ils voulaient entendre. Il a dit, le lieu où il fait plus chaud que l'enfer. On a du mal à imaginer un endroit plus chaud que l'enfer. Il a dit, le plus chaud que l'enfer, c'est la sainteté de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. C'est un peu comme on pourrait comparer une réaction chimique. La sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de froid. C'est comme un feu. Et quand le péché vient et touche la sainteté de Dieu, c'est consumé. Et c'est une réaction immédiate. Dieu ne peut pas supporter le péché dans sa présence. Sa sainteté est comme un feu dévorant. Et les gens ne tiendraient pas 3 secondes dans la présence de Dieu avec leur péché. Nous, on peut y aller parce que Christ a payé pour nos péchés. Mais si on devait se présenter devant Dieu et dire, je peux entrer dans ton ciel, nous ne voudrions même pas y aller et lui ne pourrait pas nous recevoir parce que sa sainteté nous foudroierait immédiatement. En enfer, ils sont loin de Dieu. Dieu n'y est pas. C'est un endroit de souffrance et Dieu n'y est pas. Mais Dieu n'a pas créé ça pour l'homme, il a créé ça pour Lucifer et pour les anges qui ont suivi Lucifer. Seulement, parmi les hommes, il y en a beaucoup qui ne veulent pas de Dieu non plus. Et comme ils ne veulent pas de Dieu, il faut qu'ils aillent dans le seul endroit où Dieu n'est pas. Et ce seul endroit, c'est l'enfer. Ce n'est pas parce que Dieu veut les punir nécessairement, ce n'est pas parce que Dieu, comment dire, il est amer. Non, il est triste, mais il n'est pas amer. Il est en colère, mais pas une colère genre « tu m'as fait du mal, moi je te fais du mal ». Non, c'est « je ne peux pas t'accepter dans ma présence, le seul endroit que tu veux aller, c'est l'enfer ». Et les consignes en enfer. Dieu a une sainteté dévorante et c'est pour ça que l'enfer existe. On ne peut pas être dans sa présence. Pour revenir à cette question, Dieu, est-ce qu'il va juger le mal qui a été fait sur la terre? Quelle est la question que les gens nous posent? Vous parlez de Dieu? Si Dieu existait, pourquoi le monde il est pourri comme il est pourri? Pourquoi il ne fait pas quelque chose pour tous ces gens qui sont méchants? Ils pensent toujours aux autres, jamais à eux-mêmes. Dieu doit régler les comptes. Il va les régler. Et les comptes sont déjà consignés dans des livres. Alors je ne sais pas si Dieu l'a dit pour nous, mais il parle des livres qu'il a constitués en Apocalypse chapitre 20. Je veux vous lire juste un petit passage où on voit que Dieu règle les comptes. Il dit, « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Vous imaginez le grand trône blanc, le juge s'assied sur son trône et la planète Terre et l'espace partent parce qu'il n'y a pas de place devant son trône pour eux. C'est dire la puissance, la grandeur de ce juge et ce grand trône blanc. Et devant lui, qu'est-ce qu'il y a? Les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Comment Dieu va-t-il régler les comptes? Dieu, et il est tout puissant, il peut faire cela facilement. Il tient compte de tout ce qu'ont fait les hommes sur la terre. Tous leurs actes mauvais, tous leurs crimes, tous les crimes qui ont été commis par des gens qui se sont dit « Jamais on ne découvrira que c'est moi le criminel. J'ai commis le crime parfait. Jamais personne n'arrivera à l'élucider. » Dieu l'a vu et c'est écrit dans son livre. Tous les péchés secrets qu'on fait dans les endroits à l'écart où on dit « Je suis le seul à connaître mon péché secret. » Dieu l'a vu et l'a consigné dans son livre. Et tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont refusé le salut de Dieu, que Dieu a des comptes à régler, ils ont péché, ils n'ont jamais été jugés, ils ont peut-être été prospères et riches, et ils sont morts. Et tout le monde dit, ah, quelle belle mort, ils ont pu faire toute la méchanceté possible, et puis ils sont morts, ils n'ont même pas jamais fait de prison. Ils sont morts dans leur lit, dans le confort. Dieu va régler les comptes. Et ce jour-là, les livres sont ouverts et les accusations vont fuser et tous les criminels diront, c'est vrai, je l'ai fait. Je pense que personne n'est au courant. Je l'ai fait. Je suis coupable. Je suis coupable. Je suis coupable. Toutes les accusations sont justes. Et le juge va dire, je te consigne en enfer. La deuxième mort. Alors, la punition de chacun de ces personnes, chacune de ces personnes, sa punition correspondra parfaitement au péché qu'il a commis et à la lumière qu'il a rejetée. Il y a des gens qui seront devant le grand trône blanc qui n'ont pas fait beaucoup de mal, qui n'ont pas fait beaucoup de crimes, des gens même qui ont été à peu près convenables. Comme des gens où Jésus a enseigné dans leur ville à la mer de Galilée. C'était des gens plutôt bien. En France, on aurait donné le bon Dieu sans confession. Hein? Des gens très comme il faut. Mais quand Jésus a fait des miracles et leur a montré qui il était, ils ont refusé de placer leur confiance en lui. Il a dit, vous, vous serez jugés plus sévèrement que des gens qui ont commis de gros péchés mais qui ne m'ont pas connu. Donc, plus on entend l'évangile, plus on entend parler de Jésus-Christ et qu'on refuse ce message, plus terrible sera le jugement dernier. Et donc le Seigneur va peser tout ça parfaitement et chacun aura le degré de punition, de souffrance éternelle dicté par le juge qui sait toutes choses. Et toutes ces personnes, Dieu va leur montrer que leur nom n'est pas dans le livre de vie. Ils vont leur montrer qu'ils n'ont jamais reçu Christ comme sauveur et leur nom n'est pas dans le livre des rachetés. Par conséquent, ils sont envoyés en enfer. Personne ne va en enfer par hasard. le Seigneur va les juger et les envoyer en enfer parce qu'il ne peut pas faire autrement. Rien que nous, et je termine, nous avons tous une conscience. Chaque fois que nous faisons quelque chose, il y a une petite voix en nous qui dit qu'on a bien fait ou qu'on a mal fait. Et si on devait se souvenir des bêtises de la semaine dernière, on en trouverait. Peut-être certains d'entre nous diraient, bah, j'ai pas braqué de banque, hein, ça c'est certain, mais j'étais un peu court avec mon voisin, ou j'ai mal réagi à quelqu'un, ou alors j'étais rempli d'orgueil à un certain moment, j'ai dit du mal de quelqu'un, j'ai pas bien réagi par rapport à ça. Voilà. On a tous une conscience qui nous dit chaque fois qu'on fait du mal. Si nous avons une conscience qui nous dit chaque fois qu'on fait du mal, imaginez que le Dieu Tout-Puissant et qui sait tout, a tout vu, il a tout noté. Et quand il va dire ce qui est dans ses livres, toutes ces personnes vont avoir la mémoire et vont dire, oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai commis ce péché, je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable. Personne ne pourra le nier, personne ne pourra dire, tu t'es trompé. Et c'est pour ça, quand le jugement tombera, ces gens diront, oui, ben, je l'ai mérité. Jésus-Christ est un juste juge. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus veut nous connaître. Il ne veut pas nous voir devant son jugement. Il veut nous voir dans sa demeure éternelle. Il veut nous voir au paradis. Il veut nous voir au ciel. Il a préparé une place pour nous. Si nous allons en enfer, si quelqu'un ici va en enfer, ça sera uniquement de sa faute. Le Seigneur n'envoie personne en enfer. Les gens s'envoient eux-mêmes en enfer en refusant la présence de Dieu dans leur vie, le pardon de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier.